Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue toujours sans public au Théâtre de l'Alliance Française pour Un masque et la plume consacré à la littérature avec Olivia de Lamberterie. Duel de Patricia Martin des Petits Matins de France Inter, Frédéric Becbédé du Sud-Ouest de la France et du Figaro Magazine et Arnaud Vivian de Regard et de Transfuge. On parle ce soir des livres de Bruno de Stabenrath sur Xavier Dupont de Ligonnès, de Jean Tellet sur Baudelaire, de Maël Renoir sur Hassan II, de Robert Bobert sur Pierre Dumayet et d'un monologue de théâtre signé Marine Diaye dans le courrier de la semaine. Fanny Joly, elle n'est pas la seule, ne partage pas l'enthousiasme du masque pour Fatima Das et son premier roman, La Petite Dernière, chez Notabilia. C'est à peine, nous écrit-elle, un godet de thé sans menthe ni sucre, petit fragment répétitif, mou, flou, creux, plat, ennuyeux. Bref, vous avez compris, elle n'a pas aimé. Catherine Philippe trouve le masque beaucoup trop indulgent pour Michel Houellebecq, un écrivain, nous écrit-elle, qui affirme que les femmes sont des connes, ne méritent même pas qu'on en parle. Si une écrivaine avait l'outrecuidance d'écrire ça au sujet des hommes dans un livre...
C'est pas les femmes, c'est les féministes.
Elle se ferait lyncher par les critiques. Oui, est-ce que tu vois une immense différence entre les femmes et les féministes?
Oui, bah oui.
Ce sont toujours des femmes. Delphine Blanchard de La Roche-sur-Yon.
Ça, c'était bien de le préciser.
Pas forcément.
Non, c'est vrai.
Partage l'avis de Frédéric Becbédé sur Le Banquet de Mathias Hénard. Ah. C'est une diarrhée littéraire indigeste, nous dit Delphine Blanchard. Pourtant, moi, la Vendéenne, j'aurais dû être séduite, mais ça sent le vin bouchonné. Et contrairement à ce qu'a dit Arnaud Vivian, Pierre Loti n'est pas né dans les Deux-Sèvres, mais en Charente-Maritime, à Rochefort, pays des demoiselles, correction, que d'ailleurs nous ont apporté beaucoup d'auditeurs,
oui,
dont Jean-Louis Scholtus et Philippe Giraud-Mocard. Donc attention, mon petit Arnaud. François Terrasson de Saint-Just-sur-Loire surnomme la famille Martin de Fuenquinos, la famille Gnangnan. Et Becbédé a raison, quand cessera-t-il d'être gentil et dégoulinant de bons sentiments? Merci en tout cas à toute l'équipe du Masque et la Plume qui ensoleille notre confinement. À propos de Julian Barnes, François Ménian, qui habite Londres, juge que L'homme en habit rouge est un chef-d'œuvre d'humour, de littérature et un roman merveilleusement écrit. J'invite vos auditeurs à lire les livres de Barnes dans leur version originale. C'est un vrai plaisir littéraire. Enfin, Olivier et Laure du moment librairie à Sally de Béarn dans les Pyrénées-Atlantiques appellent à privilégier, parce que j'avais donné plusieurs noms la fois dernière, à privilégier les plateformes des associations régionales des librairies indépendantes ou placedelibraire.com qui sont de vraies alternatives à la visite en magasin, tandis que Guillaume Augias, libraire indépendant à Clamart, préconise les sites de référence librairies indépendantes à toutattaché.com et leslibraires.fr. Voilà, mais je pense, j'espère que cette émission qui est enregistrée un tout petit peu avant la réouverture va nous donner l'occasion de retourner dans nos chères librairies. Et on commence avec L'ami impossible, le gros livre, 530 pages, que vous avez tous lu, je le précise, et que consacre chez Gallimard Bruno de Stabenrath à Xavier Dupont de Ligonnès. Stabenrath, je le rappelle, a été comédien. Il a fait ses débuts à 15 ans dans L'argent de poche de Truffaut. Il est devenu tétraplégique en 96 après un accident de la route. Expérience dont il a tiré le roman Cavalcade. Et c'est en 77 à Versailles, dans la terminale du collège Saint-Thomas d'Aquin, qu'il a fait la connaissance du, là je cite, sympathique et charmeur Xavier de Ligonnès. Ils deviennent amis, même si leurs voix divergent. Bruno embarqué dans le cinéma, Xavier, qu'il appelle son jumeau mental, dans la secte religieuse de sa mère. La suite, eh ben, on la connaît. Notamment les innombrables problèmes financiers, les dettes abyssales de son ami impossible, jusqu'au drame, le meurtre à Nantes de sa femme et de ses quatre enfants en avril 2011 et la disparition de l'assassin, dont Bruno de Stabenrath pense qu'il est toujours vivant et en cavale. Et il ajoute « S'il me contacte, je serai toujours là pour l'écouter ». Je précise aussi que cet été ont paru deux numéros du magazine Society. qui ont connu un succès incroyable sur l'affaire hein, de Ligonnès. Plus de 400 000 exemplaires vendus sur le seul nom de Ligonnès et sur le mystère qui s'attache à ce nom. Bref, l'ami impossible, Arnaud.
Je me suis ennuyé pendant les 300 premières pages, ça fait donc 500 pages, et beaucoup amusé, pourtant c'est assez dramatique, mais beaucoup amusé dans les 200 dernières pages. Je n'avais jamais vu cette affaire du point de vue qu'exprime Bruno de Stabenrath, c'est-à-dire... Par exemple, au départ, quand l'affaire explose, il ne comprend pas que c'est son meilleur ami, parce que on dit Dupont de Ligonnès. Et lui a toujours connu un seul nom, c'est Xavier de Ligonnès. Et donc, l'aristocratie, la noblesse joue un rôle énorme dans l'appréciation de Stabenrath, qui est, donc lui aussi est un noble et qui en plus est fasciné par ce qui reste d'aristocratie en France, de famille aristocratique.
À Versailles.
Qui utilise sans cesse le dictionnaire de la fausse noblesse, hein, qui est contre ceux qui ont pu acheter des titres, genre Valéry Giscard d'Estaing, par exemple. Et donc, il y a cet univers mental de l'aristocratie versaillaise, l'aristocratie française, à laquelle on a du mal à immédiatement rattacher Xavier Dupont de Ligonnès, vu que c'est vraiment, là, pour le coup, il a une espèce de fin de race. Il monte des boîtes qui ne fonctionnent pas. Mais encore une fois, dans l'idée de Bruno Stabenrath, c'est très important, le catholicisme et l'aristocratie. Et ça donne vraiment, comment dire, un autre point de vue, si on peut dire, sur cette affaire. Alors, avec des choses quand même... des fois, des phrases que je trouve extraordinaires. Par exemple, il dit de son ami « Son allure aristocratique est indéniable ». C'est une phrase assez étrange, hein, comme s'il y avait une allure aristocratique.
Oui, mais il parle de Ligonnès de Versailles, de la jeunesse.
Non, il le dit à la fin du récit, il dit justement, c'est quasiment comme s'il trouvait que sur les vidéosurveillance du dernier hôtel, il trouvait encore une allure aristocratique. Et puis, il y a évidemment tout le catholicisme aussi ambiant, qui est extraordinaire, parce que là, on découvre aussi la folie de la mère de Xavier Dupont de Ligonnès.
C'est pas n'importe quel catholicisme, hein.
Qui a fondé une sorte de secte.
Plus que traditionnaliste.
Enfin, pardon, si vous permettez, mais on la découvre pas, ça, on le sait depuis le début. Hein.
Moi, je n'ai pas lu le dossier de Society, donc je découvre vrai tout ça. À part ça, moi, c'est une affaire qui ne m'a jamais vraiment passionné, hein, je dois l'avouer. Mais c'est vrai que là, il y a vraiment des choses assez drôles. À un moment, il dit, à propos de son ami, il m'a raconté qu'il était presque vierge. Ça, le concept de presque vierge, si vous voulez, ça me laisse assez pantois, mais ça dit bien exactement dans quel univers. Après, si vous voulez, je trouve que Bruno Stabenrath, encore une fois, durant les 300 premières pages, explique surtout, enfin, il parle surtout de lui plutôt que de son ami. Hein. C'est quand même une espèce d'autobiographie avec une espèce de selfie littéraire avec Xavier Dupont de Ligonnès.
Après, j'ai trouvé assez dur avec Agnès, avec la femme. Alors, en fait, en gros,
elle a trompé son mari.
Oui, mais surtout, il en fait une cocotte de province dont, en fait, finalement, Ligonnès aurait été quasiment victime, alors que c'est quand même lui.
Oh non.
Ah, je trouve un peu. Ah, bon. Alors, Olivia.
Je trouve que tu exagères.
Olivia, qui a une particule indispensable pour participer à ce débat.
Fausse souveraine.
Elle a une allure aristocratique.
Qui, je crois, ne porte pas de chevalière, parce que la fabrication de la chevalière dans le livre, c'est un élément.
Ah oui, c'est très important.
Absolument. Et Bruno de Stabenrath a même pensé qu'il avait pu s'échapper avec sa chevalière et qu'il aurait pu la faire fondre, récupérer l'argent pour organiser sa fuite. Mais en fait, la chevalière est sur le doigt de son petit demi-frère. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Je ne me suis pas ennuyée une minute. Et je n'aime pas tellement les faits divers. Mais là, ce n'est pas le récit d'un fait divers. C'est le portrait d'un homme solaire, séducteur, même quand il est au bout de sa vie, que là, il n'a plus du tout son allure aristocratique, pour reprendre les propos de Stabenrath.
Et que
il
a
des vieilles chaussures, il a un vieux costume, il est tout moche. Il arrive encore à séduire une femme qui va lui donner 50 000 euros sur sa bonne foi, alors qu'il a tout raté. Je trouve que ça ressuscite un homme assez incroyable. Au départ, c'était un homme qui était programmé pour aller au Cagasse Club de Frédéric Becbédé. Il était versaillais, catho. Lui, il parle de sa mère en disant qu'elle était un peu folle, à Stabenrath. Et c'est évidemment le personnage le plus dingue du livre. Parce qu'il y avait des choses dans Society, mais pas cette scène fondamentale qui, à mon avis, brise Stabenrath. C'est-à-dire que sa mère, elle a des visions et Dieu lui parle. Et Dieu lui parle.
Enfin, la mère de
C'est Ligonès qui est brisée par.
Absolument. Oui. Elle a des visions et elle fait croire à ses enfants et notamment à son fils qu'il est l'élu, qu'il va sauver le monde. Et puis dans leur petite secte, parce que c'est vraiment une secte, Philadelphia, où chacun porte un nom de fleur, donc lui il est Jacinthe, et malheureusement le curé qui s'occupe de ça a le mauvais goût de mourir. Bon, c'est un peu embêtant, mais un jour, la mère de Ligonès l'appelle pour lui dire « Mon chéri, mardi prochain, fais une soirée chez toi, le prêtre va ressusciter ». Et Ligonès, il y croit, puisqu'il est persuadé qu'il est l'élu. Et puis bon, malheureusement, bizarrement, le prêtre ne ressuscite pas, et à partir de ce moment-là, on sent qu'il y a une faille, parce que d'abord, il n'est pas l'élu, et en plus, il n'aura pas l'argent de la secte. Et le problème de Ligonès, c'est quand même l'argent.
C'est le fric. Ouais,
c'est un livre qui fric, fait hein. penser un peu à l'adversaire.
C'est exactement,
parce que c'est un homme qui ment, qui se ment à lui-même,
qui rate, sauf qu'il bosse au moins.
Mais là, Stéphane Rat est assez drôle parce qu'il dit non, ça n'a rien à faire, ça n'a rien à voir avec l'affaire Roman parce que Dupont de Ligonès a tout remboursé. Il a remboursé ses dettes. Enfin, quand même, ça ressemble beaucoup à l'affaire Roman.
Et puis je trouve que le livre.
Que Roman est devenu très pieux en prison.
Ah, mais il est dans un monastère maintenant. Le livre aussi pose la question assez angoissante et vertigineuse. Qu'est-ce qu'on fait si son meilleur ami a tué tous ses enfants ?
C'est ça le sujet du livre.
C'est
pour
ça
moi.
Aussi.
Pour moi, c'est en fait.
Frédéric Debec-Bédé, qu'est-ce qu'il en pense ?
Contrairement à Arnaud, j'ai lu les deux dossiers de Society cet été et effectivement, je trouve que c'était le meilleur livre de l'été.
Ah oui.
C'était un page-turner, enfin vraiment extraordinaire, un récit, une enquête éblouissante, vraiment un modèle d'enquête.
Ça a été fait à plusieurs et depuis des années.
Oui. C'était remarquable. Ils avaient incroyable. Vu tous les proches et tout ça, et il y avait déjà cette idée que, au fond, c'est cette secte catholique intégriste qui l'a conduit à ne pas pouvoir divorcer, donc à devenir dingue et peut-être à éliminer toute sa famille pour, au fond, rester quelqu'un d'exceptionnel à leurs yeux, quoi, en les éliminant. Ce truc, il manquait quelque chose dans Society, c'est la subjectivité. Et là, on l'a parce que c'est un ami qui parle de son copain d'enfance. Et c'est cette question-là, qu'est-ce qu'on ferait si notre copain d'enfance tuait toute sa famille ? Stephen Rapp, pendant 9 ans, a ressassé ce truc-là. Donc les 300 pages de début que toi, tu aimes pas, moi, c'est ce que je préfère, parce que c'est une photographie nostalgique d'une jeunesse où Bruno marchait sur ses deux jambes et dansait en écoutant les Beach Boys dans des rallyes, en draguant des nanas, en robe 14-18.
Ils ont beaucoup de souvenirs musicaux.
Avec une même fascination pour les États-Unis.
Oui, les Beach Boys, Elvis, ils adoraient Elvis et tout ça, ils faisaient de la moto ensemble. Et puis ce garçon, Xavier de Ligonnès, qui est typiquement le garçon de fin de race, comme tu dis, bonne famille, aristo, coincé à mort. C'est presque comme de regarder le générique d'Amicalement Vôtre. Ces deux copains d'enfance, ben les deux vont avoir une tragédie. L'une est sans doute bien pire que l'autre. Et donc, la première partie a un intérêt, c'est que si tu as lu Society, tu as un étage de plus dans la fusée. Là, vraiment, ça devient un livre bouleversant d'humanité, de nostalgie, de cruauté aussi, enfin, et puis de schizophrénie aussi, tu te dis, mais...
Ni avec ce livre, ni avec Society, on ne sait où il se trouve.
Non, sauf que lui, il est persuadé, en l'occurrence, qu'il est toujours vivant.
Oui, bien sûr,
pas le cas
mais
de,
on ne sait pas où
de,
je disais,
la famille. Il se trouve. Non, moi, je trouve que d'abord, il a dû beaucoup souffrir en écrivant ce livre, ça a dû être... Parce que c'est quand même aussi une amitié... Ben si, il ne me fait pas non avec la tête. Ça a dû être un livre très douloureux à écrire, parce que c'était quand même son meilleur ami. Enfin, moi, si j'apprenais que ma meilleure amie a tué toute sa famille et a foutu le camp, je ne pourrais pas dire c'est bien, c'est mal, c'est comme ça, puis dossier fermé. Et c'est une douleur qu'il portera jusqu'à la fin de sa vie, j'en suis sûre. C'est une histoire complètement folle. Et c'est, alors effectivement, on peut penser à Jean-Claude Roman de l'adversaire, on peut aussi penser à la petite femelle de Philippe Génada, sauf que là, il y a une distance entre l'auteur et la personne dont il s'agit. Et il y a un autre livre que moi j'avais lu et que j'ai beaucoup aimé, c'est Un dimanche matin de Joanne Rigoulot, où elle raconte dans sa famille, un formidable livre, c'est son cousin qui a été accusé du meurtre de sa femme, et comment tout à coup, tout ça bouleverse et fait, il y a des ruisseaux qui s'acharnent sur toute une famille, c'est pas seulement une personne, deux personnes, trois personnes, c'est tout un groupe. Et il ouvre un petit peu des portes sur l'instabilité de ce garçon qui tout à coup disparaît. On ne sait pas toujours bien où il est. Il est infantile, il est impressionnable, il est assez peu empathique quand même. C'est une sorte de Madame Bovary au masculin, je trouve, qui rêve un peu sa vie. Alors peut-être parce que sa mère lui a dit qu'il serait le maître du monde. Mais il y a quand même ce côté-là, un peu ce décalage avec la vie réelle. Le début est formidable sur toute la vie, effectivement, la vie heureuse, la vie sans aucun souci. Et puis tout à coup, effectivement, le pire qui puisse s'abattre sur deux hommes, l'un et
l'autre. L'accident. En 96, où il est, voilà,
peut-être que
il est tétraplégique et l'autre lui rend visite à l'hôpital.
Absolument.
Et tout ça.
Il regrette de ne pas pouvoir l'aider financièrement.
Allez.
La scène est complètement romanesque.
Peut-être que là où se trouve Xavier Dupont de Ligonnès lira L'ami impossible, qui est donc signé de son ami Bruno de Stabenrath, et c'est chez Gallimard, Crénon, Baudelaire. C'est après ses portraits hauts en couleur, on peut dire ça, de Villon, de Rimbaud, de Verlaine. Le nouveau livre est nouveau succès de Jean Tellet sur le poète des Fleurs du Mal, et c'est aux toutes nouvelles éditions Mialet Barreau. Et dans cette biographie romancée, assez épaisse aussi, hein, 430 pages, eh bien, Tellet fait le portrait d'un dandy accro, ça on le savait, hein, à l'absinthe, drogué au hache et à l'opium, qui soudoie sa mère, qui insulte à peu près tout le monde, qui entretient des relations orageuses, pas simplement avec Jeanne Duval, mais aussi Marie d'Aubrin ou Apollonie Sabatier, sans compter que celui que Tellet appelle le premier punk sur Terre, vous allez me dire ce que vous en pensez, se teignait les cheveux en vert, comme Frédéric, et promenait en laisse un mouton à la laine rose, comme le fait souvent Patricia, rongée par la syphilis, contractée chez...
Comme moi aussi, non,
contractée chez Sarah Lalouchette, que nous avons bien connue, hémiplégique, mutique, Baudelaire, donc, dont le vocabulaire se serait résumé au seul nom de Crénon, est mort à 46 ans. En 1867, Manet disait à Baudelaire « Vous êtes neuf dans une poésie vieille ». Est-ce que Jean Tellet est neuf dans une biographie vieille? C'est la question que je vous pose, Patricia.
Moi, j'ai adoré. J'ai trouvé que, évidemment, il y a certainement des gens à qui ça peut donner de l'urticaire, parce que c'est un divertissement, mais un divertissement sérieux. C'est irrévérencieux, mais c'est de la vulgarisation intelligente. Alors, je ne sais pas s'il y a des choses inventées ou pas. Moi, je ne connais pas assez bien la vie de Baudelaire, mais je trouve qu'il y a des extraits de poèmes ou des poèmes entiers qui viennent à point, et ils montrent très bien finalement ce type qui n'est pas de ce monde, en fait, d'une certaine manière, qui est insupportable, qui est narcissique, qui est provocateur, qui est macho. D'ailleurs, les femmes ne sont pas des femmes, ce sont des femelles. Alors, il a son soleil noir qui est son alter ego, Jeanne Duval, et à la fin, d'ailleurs, il y a une scène absolument magnifique au cimetière du Montparnasse où la mère est là, c'est une femme âgée, elle ne veut pas qu'il y ait de sculpture en l'honneur de son fils, mais Jeanne Duval, qui n'y voit presque plus, qui est quasiment aveugle, est sur le trottoir en face et suit l'enterrement de loin. Ça montre aussi tout le côté génial et obsessionnel de Baudelaire, c'est-à-dire que moi, j'aurais pas voulu être son éditeur. Il raconte qu'il avait pu renvoyer 23 fois la même page. Et on peut se dire que c'est un être qui avait pas beaucoup de sentiments, mais à la mort de Mariette, la femme de la bonne, enfin à l'époque, je sais pas comment on disait, qui était à la maison, il a écrit un poème absolument magnifique.
Mais là tu parles de Baudelaire, mais c'est vrai qu'on a énormément lu de textes, de biographies même de Baudelaire.
Moi, j'ai pas énormément lu de biographies de Baudelaire.
La question, c'est qu'est-ce que celle-là apporte, Frédéric?
Comme le dit Patricia, c'est de la pédagogie amusante, et ça, après tout, pourquoi pas. Le défaut du livre, à mon avis, c'est que ça tire toujours vers le spectaculaire, vers de l'anecdotique un peu, et du coup, par moments, on a l'impression de lire la poésie pour les nuls, ou Charles Baudelaire désacralisé pour les lycéens, quoi.
Mais la vie de Baudelaire est extravagante.
Bien sûr, il n'exagère pas
les faits qu'il raconte.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que Tellet, il a toujours ce côté ravi de la crèche. On le voyait à Nulle part ailleurs, il faisait toujours le mec naïf. Oh, je suis tout étonné partout et tout. Mais en fait, ça fait quand même un bout de temps qu'il écrit des livres. Il pourrait aussi, et il est intelligent et cultivé, il pourrait aussi prendre ce sujet un peu plus au sérieux et arrêter de toujours jouer les étonnés. Oh là là, il avait les cheveux verts, c'est incroyable. incroyable. Parfois, les poètes sont des gens pervers et même des salauds. Mon Dieu, non.
C'est pas ce ton-là qui dit les choses.
Moi, je préfère. J'ai adoré ce qu'avait fait Antoine Compagnon sur Baudelaire. Ah bah oui. Il avait fait un été avec Baudelaire. Et là, c'était de la vulgarisation aussi. C'était très simple, facile d'accès, avec beaucoup d'anecdotes, beaucoup de choses qu'on apprenait. Mais c'était d'un autre niveau quand même.
Delay n'a pas de la prétention d'être un historien.
Non, mais c'est juste ce concept de toujours vouloir tout simplifier ou tirer vers un musée des horreurs, quoi. Et je prends un exemple, par exemple, il s'amuse à dire « Homme libre, toujours tu chiras sur la mer ». Bon, bah, on n'a pas besoin forcément
de
ce genre de truc.
Oui, ça, c'est pas le dire extrait.
Il s'agit bien de vulgarisation, mais au sens de vulgarité et de grossièreté. Là, la phrase que vient de citer Frédéric, c'est l'exemple type d'une espèce de grossièreté qui n'a pas lieu d'être. Je me suis amusé, si on peut dire, à lire en même temps que Le Gentelet, la biographie, la dernière, qui est de Marie-Christine Natta, qui est apparue en 2018 chez Perrin, qui vient de sortir en poche, qui par ailleurs coûte 5 euros moins cher que Le Gentelet, hein, et qui est quand même beaucoup plus précise. Je voulais voir comment il... Parce que c'est quand même le livre qu'il cite en premier dans sa bibliographie. Et donc évidemment, il le pille beaucoup. C'est intéressant de voir comment il fabrique ça, parce qu'il y a des petites erreurs. Alors, tout est vrai dans ce qu'il raconte, mais il y a des petits déplacements chronologiques. Il y a des phrases qui ont été dites par d'autres, qu'il met dans la bouche d'autres personnages. Il y a des petits changements par rapport à la biographie officielle de Marie-Christine Natta.
Mais est-ce que ça s'adresse au même public,
très, très simple à lire, qui n'est pas du tout une biographie universitaire, qui est très agréable à lire. Et puis, il y a un problème, si vous voulez, à mon avis, avec le livre d'Hôtelet, c'est qu'il part du principe que Baudelaire était méchant. C'est absolument
même détestable. Hein.
Détestable, oui, détestable. Et souvenons-nous quand même de Proust dans le Contre Sainte-Beuve, raconte justement, et c'est bien ça qui énerve Proust, que Sainte-Beuve disait de Baudelaire que c'était un gentil garçon qui lui offrait des vers et du pain d'épices. Donc cette vision-là, et on le voit bien d'ailleurs, il a plein de copains, Baudelaire par ailleurs. Son éditeur, alors qu'il l'a volé, etc., l'adore. Quand il le revoit en Belgique, il redeviennent extrêmement copains et ils refont
des
livres ensemble.
En Belgique, il fait quand même un scandale.
Donc il y a vraiment à la fois de l'admiration, il inspire de l'admiration. Donc je suis pas sûr que ce côté détestable de Baudelaire soit tout à fait vrai, mais c'est bien vers là que veut tendre Hôtelet pour donner à son lecteur un ressort, finalement un ressort dramatique qui fait fonctionner son bouquin. À l'arrivée, si vous voulez, moi je préfère vraiment lire, encore une fois, la biographie qui est sortie.
Ou le Sartre. Toi qui aimes Jean-Paul Sartre.
Il y en a beaucoup.
C'est pas,
Olivia.
C'est pas le meilleur Sartre, à mon avis. Mais bon.
Moi, j'ai l'impression que depuis quelques livres, Hôtelet, il a monté une sorte de petite fabrique de biographie.
Oui, une baraque de foin.
Qui voudrait être l'envers de La Gare des Michards, qu'il pourrait labelliser sous le titre d'un de ses livres qui était Héloïse Houille. Mais moi, je dirais plutôt Héloïse Couille. Parce que c'est une espèce de...
Tu es sur France Inter.
Enfin.
Oui, mais c'est...
La radio la plus écoutée de France.
Et qui n'est pas vulgaire. Je pense que je n'apprends rien à nos auditeurs. Parce que le prisme unique de Jean Hôtelet, qui par ailleurs est un très bon conteur, hein, honnêtement, ça se prend, ça se lit, il a le sens de la formule, le sens de la scène. Mais c'est uniquement la grivoiserie. C'est très très curieux. Alors ça donne une sorte de roman rabelaisien. Moi, je peux pas dire que ça soit mon genre de beauté. Et on a l'impression d'un ado avec une sorte de montée hormonale et qui, lorsqu'il écrit glougloutage de poireaux,
bah oui,
il devient tout rouge.
Bah moi, ça m'a fait rire.
Et toi, ça te fait rire.
J'avais jamais entendu ça de ma vie.
Poireaux, tu vois. Alors ça donne, au final, un homme qui est vérolé, malade, défoncé et détestable. Et moi, au bout d'un moment, alors c'est mon espèce de petit esprit de petite chochotte, sans doute, j'ai un peu mal à mon Baudelaire. Hein.
Crénom Baudelaire, c'est signé Jean Hôtelet et c'est aux éditions Mialet Barreau. L'historiographe du royaume, un roman de Maëlle Renoir chez Grasset. Vous savez tous que pour chroniquer son règne, Louis XIV avait le duc de Saint-Simon, et bien le roi du Maroc, Hassan II, dont je rappelle les dates, 1929, 1999, dont la cour d'ailleurs rivalisait avec celle de Versailles, aurait choisi comme mémorialiste un certain Abderrahman El-Jarib. Évidemment, il n'existe pas. C'est Maël Renoir qui l'a inventé. Il imagine qu'avant d'être roi, le prince héritier aurait eu comme condisciple au Collège Royal ce garçon d'origine modeste, très doué d'ailleurs, même plus fort que lui, qui est ce fameux El-Jarib. Et pour l'éprouver, d'abord, il l'envoie dans le sud-ouest marocain pour occuper un poste fantoche de gouverneur académique, après quoi il le rappelle à ses côtés et lui confie le titre d'historiographe du royaume. Le roman qu'on lit, c'est donc la chronique imaginaire tenue par El-Jarib du règne d'Hassan II, avec notamment les deux attentats manqués contre le souverain en 71 et en 72, l'un dans son palais de Skirat, l'autre dans les airs, les deux fomentés par le général Oufkir. Bref, un roman en trompe-l'œil qui m'a semblé, mais je ne l'ai pas fréquenté, être un portrait assez juste du roi Hassan II. Frédéric.
Le problème, c'est que c'est vraiment écrit comme un pastiche de Saint-Simon.
Donc c'est une prose grand siècle.
C'est un peu comme un exercice de style assez emmerdant, enfin moi, à mon goût. C'est-à-dire que je préfère quand Patrick Rambaud fait un pastiche de Saint-Simon sur Sarkozy ou Emmanuel Macron, c'est nettement plus marrant et enjoué et léger. Et là, on a l'impression d'un bon élève, très scolaire, limite cagneux, qui veut faire sa bonne copie. Alors c'est très très bien fait et on est assez admiratif du style, c'est vrai, c'est assez remarquable, la documentation aussi. Mais en même temps, j'ai eu beaucoup de mal, franchement, à avancer dans le livre, jusqu'au moment où il y a les attentats, où là, c'est la grande scène, mais c'est à la page 300. Et il m'a un peu perdu bien avant.
C'est pas la page 300, c'est bien avant, mais...
Moi, je trouve que...
C'est ton droit.
C'est un livre où il se passe pas grand-chose, et où en plus, alors, il y a ce truc à la fin de l'épilogue... qui est comme une explication de texte pour expliquer au lecteur ce qu'il a voulu faire.
On a retrouvé. Ça, c'est la seule, à mon avis...
Ça m'a paru un peu, oui, là, pour le coup. Merci beaucoup de nous expliquer ce que vous avez voulu faire. On avait peut-être compris, mais... Donc, oui, c'est un remix de Saint-Simon croisé avec les Mille et Une Nuits, je vous le dis.
Oui, mais pour démontrer une chose qui est assez juste, c'est que finalement, cette dynastie alaouite est la seule qui se soit prolongée depuis l'époque de Versailles, d'ailleurs, mais au Maroc, avec un protocole, un faste, des mœurs qui sont très proches.
Et beaucoup de gens virés, hein, quand même.
Oui, mais c'était aussi le cas de Versailles.
Mais moi, après, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il écrit ce livre? Et puis, j'ai vu que Maël Renoir était la plume de François Fillon.
Il a été la plume de Fillon.
Et qu'au fond, cet historiographe du royaume, c'est peut-être lui, et peut-être qu'il essaie de raconter cette histoire, mais c'est dommage que j'aimerais bien qu'il la raconte pour de vrai. La disgrâce, c'est un mot qui revient pendant tout le livre, la disgrâce de François Fillon détruit par le canard enchaîné, c'est ça le vrai sujet du livre, caché, et peut-être que dans le prochain, il n'aura plus besoin de se cacher.
Moi, je ne me suis pas embêté un seul instant, mais ça ne regarde que moi.
C'est vrai qu'il aime bien la disgrâce, parce qu'il avait écrit la réforme de l'opéra de Pékin aussi, où il y avait un
qui était très très bien.
Qui était très très bien.
Prix décembre en 2013.
Et, oh, bah bravo, quelle mémoire qui...
vous êtes tous les deux jurés dans ce prix.
Pour la date, ça, moi, j'aurais pas su. Mais qui, c'était à la fin du règne, entre guillemets, de Mao, et qui avait,
c'est une sorte de matrice, en fait.
Qui avait, en fait, viré tous les opéras qui jugeaient trop féodaux, quoi. Il avait un universitaire extrêmement zélé qui le suivait. Et évidemment, à la fin de Mao, il a eu quelques ennuis. Donc je trouve que ça, c'est quand même très très bien vu, le thème de la disgrâce. Moi, je trouve que c'est écrit, effectivement, c'est écrit de façon très classique. Le type, il est agrégé de philo, il est assez sérieux. Il s'est vachement documenté, parce que je crois qu'il n'a jamais mis les pieds au Maroc. Bon, c'est parti d'un paragraphe d'un contemporain marocain de Louis XIV. Et puis, tout à coup, il s'est dit, tiens, je vais écrire là-dessus. Ce qui est incroyable, c'est la vie de cet historiographe. C'est-à-dire qu'il y a des règles, finalement, il n'y a pas de règles, très exactement. C'est-à-dire que tu ne sais jamais ce qui va t'arriver. Tu ne sais jamais si le fait de faire semblant, de laisser gagner un supérieur à toi aux échecs va te revenir à la figure ou pas. Tu ne sais pas
si le
fait...
C'est
le phénomène de cour. Je trouve ça absolument glaçant, parce que tout est danger, et tout est danger mortel. Mais alors, effectivement, les deux joyaux, c'est les deux moments de l'attentat.
Des attentats.
Quand il y a...
Le premier, d'ailleurs, étant presque burlesque. Hein,
absolument. Quand Oufkir est en slip de bain, ça veut dire que le roi est nu. Enfin voilà. Bon, puis vous aurez sûrement envie de raconter le deuxième. Et puis aussi, quand il raconte les fêtes de Persépolis, avec quand même des gens comme Pompidou, comme Michel Jobert, comme Chaban Delmas, qui y assistent. Mais on est dans un asile psychiatrique à ce moment-là.
Comment en plus il écrit
Il raconte bien.
Comment en plus il écrit cet historiographe des poèmes. Il devient aussi l'ami de Senghor. Enfin,
exactement.
En tout cas, il est proche de Senghor. Il est lu par Sartre. Enfin, il y a tout un. Il y a aussi une période parisienne.
Il est très flatté d'ailleurs d'être reconnu à un moment donné par Senghor.
Olivia.
Moi, j'ai trouvé que le portrait du souverain despote était intéressant. Cet homme, quand il rit, il faut rire. Quand il se trompe sur le titre du livre de l'auteur qu'il appelle « Élégie mauresque » au lieu d'élégie barbaresque, et que l'auteur s'en émeut auprès de conseillers, les conseillers lui disent « Mais il faut que tu changes le titre de ton livre pour que donc la faute du roi devienne la réalité. » Ou lorsque un journal français, il se trompe dans la citation, à chaque fois qu'il fait une citation, en fait, il dit que c'est Pascal. Et puis là, c'est Buffon. Alors, il faut chercher dans l'œuvre de Pascal pour trouver une citation ressemblante. L'attentat est très bien. Alors après, moi, pour le dire un peu plus joliment que Frédéric, je dirais que c'est d'un ennui souverain.
Royal.
Parce qu'il y a quand même mille et une autres histoires. Hein. C'est une réécriture de Mille et une nuits. Et moi, ce n'est pas mon genre de beauté.
Arnaud.
Je pense avoir tout lu ce qu'a pour l'instant publié Maël Renoir. J'ai même eu la chance et le plaisir de l'éditer puisqu'il a écrit deux nouvelles pour Feu, ma revue Charles, qui était évidemment, parce qu'on voit bien que son sujet c'est justement la politique et le pouvoir. La réforme de l'opéra de Pékin qui était extraordinaire, c'était une novella, hein, ça faisait 60 pages, avec une érudition sur ce thème de la révolution culturelle et mais aussi de l'opéra chinois. C'était tout à fait remarquable et on voit bien, alors évidemment c'est du roman normalien, il a été la plume de François Fillon à Matignon parce qu'il était normalien, il faut être normalien pour obtenir le job, il y a évidemment une dimension à mon avis autobiographique de ce qu'il a vécu lui-même était l'historiographe de François Fillon, parce que le travail de plume de François Fillon c'est de rédiger des discours, en général des discours
on risque quand même pas la mort si ça ne plaît pas au
Puis, il a écrit un très beau livre, Proustien, fait d'essai Proustien sur Internet. C'est aussi, on voit aussi d'ailleurs, ça se retrouve dans ce roman-là, il a écrit des fragments sur Paris, un peu à la manière de Léon-Paul Fargue, qui sont absolument remarquables. Il y a un fragment sur, là aussi, Feu, la poste du Louvre, mais qui est juste génial. Enfin, c'est quelqu'un, moi, je trouve que c'est un grand futur écrivain. Il n'y a aucun doute là-dessus. Cette manière, quand même, de s'emparer d'un sujet comme celui-ci, de parler du Maroc dans la littérature française contemporaine, personne ne ferait ça.
Ce qui passionnait au début, c'était surtout de raconter, d'après ce que j'ai lu, le sultan Moulay Ismaël, qui était le contemporain de Louis XIV. Vrai sujet. Il l'a greffé ensuite sur Hassan II.
Oui, c'est ce que raconte très bien, pour le coup, l'épilogue. Voilà. Moi, j'adore l'épilogue, contrairement à vous, parce que je pense qu'il a un talent fou pour la nouvelle, Maël Renoir. Et d'une certaine manière, l'épilogue, c'est une espèce de petite nouvelle. On retrouve à la fois, parce que ça se passe beaucoup autour de l'île Saint-Louis, il y a plein d'éléments comme ça, d'architecture parisienne. C'est absolument fabuleux.
Oui, mais l'épilogue, il n'est pas écrit dans cette langue chantournée. Chamarré.
Et surtout, voilà, il y a une espèce d'économie dans l'épilogue, à mon avis, qui est absolument parfaite. Moi,
Allez, on a encore deux livres à évoquer. C'est l'historiographe du royaume. C'est Maël Renoir, c'est chez Grasset. Par instant, la vie n'est pas sûre de l'écrivain et documentariste. Robert Bobert chez POL dans ce recueil de souvenirs très joliment désordonnés. Il y a évidemment une figure centrale qui est Pierre Dumayet, avec lequel Bobert a réalisé au moins une cinquantaine de portraits d'écrivains. Bobert tenait la caméra, Dumayet tirait sur sa pipe, avant de la casser pour de bon, c'était en 2011. Et dans ce livre, l'auteur de Quoi de neuf sur la guerre se souvient, dès le début du livre, de ses visites à l'hôpital Saint-Louis, où Dumayet vivait ses derniers instants. Il raconte comment Dumayet l'a vraiment réconcilié avec la littérature. Il dit, ayant quitté l'école dès le certificat d'études primaires, dit Bobert, j'ai passé des années à ne pas lire. Et puis, 10 ans après leur séparation, donc, il s'adresse à lui comme, il le tutoie, comme à un grand frère, dans cette lettre posthume où passe André Schwarzbart, dans un atelier de tailleur, Marguerite Duras, filmée dans son appartement des Roches-Noires à Trouville, Doineau, Pérec, Tardieu, ou encore Dubillard, qui, vous le savez, à la fin était hémiplégique, et qui a dit ce mot que j'adore, c'est « je tiens beaucoup à ce que je ne dis pas ». Ça, je trouve ça magnifique. Qu'en pensez-vous, Olivia ?
J'ai adoré. J'ai pris ce livre en me disant, qu'est-ce que c'est que ça? Je savais à peine qui était Pierre Dumayet, je suis désolée. Oh. J'ai trouvé que c'était un livre...
Lecture pour tous.
D'une... Oui, mais je n'ai jamais vu Lecture pour tous.
Elle n'était pas née.
Je n'ai jamais vu. Ça m'a donné envie de voir.
Et puis c'était... Elle n'a pas d'autre chose à faire que de regarder toutes les archives de la Terre.
Et puis c'était un très bon écrivain. On n'en parle jamais. Il a fait des livres merveilleux.
Berck et Beck, c'était très très beau. Et ce livre est d'une infinie douceur. C'est un livre à la fois de souvenirs du petit garçon de la butte aux cailles, un livre d'amitié, évidemment, avec Dumayet. Et lorsqu'il pense à eux, il pense à cette photo de Cartier-Bresson avec deux hommes allongés dans l'herbe, côte à côte, à plat ventre, avec des casquettes. Un livre sur l'amitié avec Paul Otchakowski-Laurence. Et là, moi, je pleurais quand il raconte la mort de Paul et quand il raconte comment il est devenu écrivain. Il lui avait donné 8 pages. Et Paul Otchakowski-Laurence lui a dit « J'attends la suite ». Il lui a dit « Mais pourquoi ?»
Petite parenthèse, Paul Otchakowski-Laurence est mort il y a 3 ans. Là, je viens de lire successivement 3-4 livres de ses auteurs, notamment Charles Juliet, évidemment Emmanuel Carrère à la fin de son livre. Et là encore, Bobert a toujours parlé de lui comme s'il était toujours vivant et comme s'il ne pouvait continuer à écrire ses écrivains que sous le regard de Paul. C'est très émouvant, ça.
Mais parce que c'était tellement beau, la relation qu'il avait avec ses auteurs. Et quand, après seulement ces 8 pages, Bobert lui dit « Mais comment savez-vous que je suis un écrivain ?» Il lui répond juste « Ça doit être pour ça que je suis éditeur. C'est tout. »
Et il a eu le prix du livre à terre avec ce livre-là.
Oui, et puis je trouve que ce qui est beau, c'est que c'est un livre... sur ce que c'est que de lire. C'est un livre sur les lecteurs.
Tout à fait.
C'est un livre, si encore aujourd'hui on doit prouver à quelqu'un que le livre est un bien essentiel, il faut lire ce livre. C'est un livre qui montre comment les livres changent la vie.
Oui.
Comment les livres changent la manière que vous avez
et
de voir la vie.
Et par quelqu'un qui est arrivé assez tard à la lecture.
Assez tard, et en étant très intimidé.
Oui.
Comment les livres peuvent consoler de choses extraordinaires. Il y a dans ce livre une des plus belles histoires que j'ai lues. Il fait un film sur les enfants de déportés, sur les femmes qui ont fait une vie et qui étaient des enfants déportés. Ce qui lui vaut le coup de téléphone d'une dame qui lui dit « Je suis heureuse, j'ai un mari, j'ai des enfants, mais je n'arrive pas à être heureuse parce que quand je m'occupe de mes petites filles, je pense à tout ce que je n'ai pas eu. » Et là, il se dit « Qu'est-ce que je vais lui raconter? Comment est-ce que je peux la consoler ?» Et il lui raconte l'histoire de la disparition de Pérec, comment Pérec a écrit un livre sans eux et comment... C'est
sans la lettre E.
Sans la lettre E, et comment c'est une métaphore de la disparition des Juifs, et comment il va consoler cette femme.
Il va probablement même la guérir.
Il va la guérir. C'est vraiment, je
l'histoire
trouve,
juive qui, entre parenthèses, l'histoire juive qui passionnait Dumayet, qui rêvait de faire le grand film sur
Et tout à la fin, l'avant-dernière page, on rencontre Florence Malraux, et là, on repleure. C'est
Arnaud.
Sublime.
Tu as tout à fait raison, c'est un livre sur la lecture. On peut même presque dire que c'est un livre sur un livre. C'est Autobiographie d'un lecteur de Pierre Dumayet. Moi, je me souviens très bien de la sortie de ce livre, publié chez Pauvert par Marencel à l'époque. J'avais adoré ce livre de Pierre Dumayet. On peut dire que c'est un livre sur la lecture et même sur deux sortes de lectures. D'une part, la lecture de la Bible, parce qu'il est beaucoup question d'Éric de Luca, qui est un grand lecteur de la Bible. Et d'autre part, la lecture du Talmud. On sent que il y a ces deux manières de lire des textes sacrés qui n'ont rien à voir, et c'est donc ces deux formes de lecture, et on les sent là à l'intérieur du récit de Bobert comment il pense justement à ces deux. Et puis enfin, c'est un grand livre sur la représentation de la littérature à la télévision, qui est une chose dont on n'a plus conscience de ce que ça a été.
La scène avec Marguerite Duras,
c'est magnifique.
En fait, ils apportent à Duras des images d'archives d'elle-même, donc elle se regarde, c'est une mise en abîme incroyable, tout ça face à la mer.
Et puis comment représenter le texte, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'il y ait, faire une image du texte, c'est magnifique comme pensée, et donc rien que pour ça, c'est un très très grand livre.
Frédéric ?
Entièrement d'accord, j'ai été très bouleversé et très surpris d'être bouleversé, parce que a priori comme toi, ça m'intéressait moyennement. Vous avez tout dit, mais il y a aussi quelque chose de talmudique, d'intéressant là-dedans. Il y a d'ailleurs une reproduction en facsimilé des annotations d'un livre de Martin Buber par le grand rabbin de France, où on voit des écritures dans toutes les marges du livre. Et ce livre, c'est ça, c'est comment, en fait, la lecture, ça n'est pas que de la lecture, c'est le commentaire d'un livre éternel, et on a ajoute chacun nos petites annotations. Et au fond, c'est un livre sur nous, sur le masque et la plume.
Patricia. Qui était, d'ailleurs, mais les
oui, c'est vrai,
du
mais pas gentiment. Parce qu'il n'est pas gentil du tout. Avec. Il dit que les critiques sont des imbéciles quand ils disent qu'ils disparaissent complètement derrière les gens qu'ils filment. Ça, c'est pas sympa, Robert Bobet. Non, mais c'est un livre, effectivement, de fraternité. Quand il parle aussi que le yiddish a permis de corriger le passé, c'est formidable. Et il y a une histoire, et qu'il raconte à chaque fois d'une façon merveilleuse, l'histoire de Corot. Alors là, on est, évidemment, c'est pas du tout contemporain, qui est en forêt de Fontainebleau, qui est en train de peindre les arbres, et un monsieur qui... Et puis, il peint un étang, et il y a un promeneur qui arrive derrière lui et qui lui dit, mais il n'y a pas d'étang là, pourquoi est-ce que... Mais oui, mais regardez derrière vous. Il y avait un étang. Moi, je trouve que cette histoire, elle me donne le frisson rien qu'en la racontant. Non, c'est formidable.
Par instant, la vie n'est pas sûre. C'est Robert Bobert chez POL. Vraiment, on est tous là à vous le conseiller. Ça ferait un très beau cadeau de Noël, d'ailleurs. Et puis, profitez-en pour relire Quoi de neuf sur la guerre, qui était un livre bouleversant. Allez, on termine avec Royan. La professeure de français, monologue de théâtre, signée Marine Diaye chez Gallimard. Gallimard où paraîtra en janvier son nouveau roman « La vengeance m'appartient ». On en parlera en son temps en masque et la plume. Royan a été écrit pour Nicole Garcia, qui devait le jouer dans une mise en scène de son fils Frédéric Bélier-Garcia au dernier festival d'Avignon, qui a été annulé. En novembre, au Théâtre de la Ville...
C'est triste d'ailleurs parce qu'il y a les affiches dans le métro.
Absolument. Encore. Puis en tournée, tout cela étant remis, vous l'imaginez, au début de l'année prochaine. Je ne sais pas quand, où, tout ça devient un peu confus, évidemment. Faute de scène, voilà le texte. Très éruptif, très désespéré. Gabriel Leu, originaire d'Oran, Oran la radieuse, comme d'ailleurs Nicole Garcia, est professeur de français dans un lycée de Royan. Elle redoute... au moment où le monologue commence de rentrer chez elle, parce qu'elle sait que sur le palier de son appartement l'attendent les parents de son élève Daniela. Or, Daniela s'est jetée du troisième étage par la fenêtre de la classe. Elle était devenue, cette jeune fille aux cheveux noirs, à la crinière vociférante, dit Marine Diaye, elle était devenue la souffre-douleur de ses camarades, de grands fauves que la faim a conduit dans la classe. Voilà, Gabrielle, dont la propre vie ne fut pas une partie de plaisir, est-ce qu'elle n'a rien vu venir? Est-ce qu'elle a manqué de porter assistance à élèves en danger? C'est de 60 pages, c'est très court. Mais moi, je l'ai lu, évidemment, en entendant la voix ronceuse, éraillée de Nicole Garcia, qu'on ne peut pas pour l'instant entendre. Et là, on comprend très bien pourquoi elle a écrit ce texte pour Nicole Garcia. Frédéric.
Je suis embêté parce que, évidemment, c'est dur de juger du théâtre sous forme littéraire. Enfin, normalement, je pense que c'est un monologue qu'il faut voir sur une scène. Et j'imagine, avec une grande actrice, ça doit prendre une dimension. Là, je trouve que c'est un labyrinthe un peu sans sortie. On comprend dès la page 22 que donc l'élève s'est suicidée, est morte, et c'est la culpabilité de la prof qui est dans le vestibule, dans l'entrée de son immeuble, et avec les parents qu'elle va voir après. Donc les parents l'attendent.
Ils l'attendent sur son palier.
Donc on imagine que ça va être... c'est tragique, c'est une tragédie en fait. D'ailleurs, à un moment, Marine Diaye, elle dit... c'est un peu, elle fait du gentelet. Elle dit, de quel côté vont siffler ces serpents? Donc elle s'amuse... avec Racine, avec la tragédie. Bon.
Mais attention, c'est un monologue intérieur. Oui. Ça va être lu, mais c'est un monologue, enfin dit plutôt, mais c'est un monologue intérieur avec toutes les imperfections quand on pense dans sa tête à certaines choses.
Donc, oui, c'est ça. Alors, il y a les imperfections, je trouve qu'on les sent un petit peu. C'est une sorte de poème répétitif, comme il y a de la musique sérielle. Vous voyez, c'est entre Duras et Philippe Glass. Donc, faut aimer. Moi, je dois dire, le combat des chevelures, par exemple, ça m'a fatigué. Il y a la chevelure de feu de Nicole Garcia, la professeure. Et puis, il y a la crinière vociférante de l'élève. Ouais. Donc, c'est un combat de cheveux. Alors, c'est vrai qu'en temps de confinement...
Mais
comme
si
les
tu permets, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'elle reproche aussi dans son monologue à ses parents d'avoir été trop tolérants, les parents de Daniela.
Les bons parents.
Ça c'est pas...
Avec beaucoup d'ironie.
Et puis, il y a sa propre histoire à elle, à Gabrielle, qui est terrible quand même.
Mais à rien, juste pour sauver quand même, parce que je suis un peu méchant là, mais il y a un moment où je dois dire, je me suis fait cueillir. C'est quand elle dit, il me semblait qu'ils allaient sauter sur l'estrade pour me dépecer, en parlant de ses élèves. Mmh. Et évidemment, ça résonne aujourd'hui avec la décapitation de Samuel Paty. Et là, tout d'un coup, on se dit que Marine Diaye, mais elle a eu une intuition folle, quoi, de cette espèce de, en fait, ce métier est devenu dangereux. Voilà.
Olivia?
Moi, j'ai trouvé que c'était un texte extraordinaire. Parce que la rage qui est présente, balaye absolument tous les clichés qu'il peut y avoir sur la responsabilité autour d'un suicide, la culpabilité, le rôle des professeurs, le rôle des parents. Et je trouve qu'elle se situe bien au-delà de tout ce qu'on peut dire là-dessus. Et que finalement, le livre, c'est l'histoire d'une femme qui s'est construite, qui a muselé toute sa liberté, qui a fait des sacrifices absolument monstrueux, et dont tout d'un coup, la tranquillité est mise à mal par cette gamine. Et elle est effrayée par ce qui peut y avoir de retentissement sur sa propre vie. Et je trouve qu'au-delà de ça, c'est un livre sur... Comment est-ce qu'on peut être une femme aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut tout le temps donner bonne figure ? Et est-ce qu'on doit être tout le temps sans peur et sans reproche ? Elle le dit souvent. Moi, je trouve que c'est
d'une... Bien coiffée, maquillée.
Exactement, etc. Pour pouvoir être tolérée par la société. Mmh. Et j'aime bien l'image des cheveux. Les cheveux, c'était beaucoup dans Americana. De Chimamanda
Ngozi. Oui, et puis il ne faut pas oublier qu'elle fait le portrait d'une Daniela qui était elle-même très masculine, très sans gêne.
Voilà.
Très,
c'est très une fille qui refusait.
Voilà. Mal fringuée, avec un t-shirt.
Qui refusait les codes de la bienséance, les codes de la séduction.
Même sur les poils, tout ça, il y a des choses qui sont. C'est très marrant.
Elle l'imagine arriver voilà. Avec ses jambes poilues dans la classe.
C'est terrible.
Ah non, mais c'est un texte, moi, je trouve, d'une richesse.
Patricia.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec Olivia. Je trouve que c'est extrêmement cruel et dérangeant. C'est une femme blindée et en fait, je pense qu'il n'y a qu'un monologue intérieur qui puisse dire
blindée,
ça.
Blindée, mais brisée.
Mais brisée. Mais c'est une femme qui ne s'est jamais laissée approcher. Donc, ouais. On se demande même comment elle a pu avoir un enfant avec
fille,
un homme.
Une
fille, en plus.
Qu'elle n'a jamais revue, d'ailleurs.
Qu'elle n'a jamais revue. Elle qui voulait aussi tuer sa mère et qui met absolument tout le monde à distance parce qu'évidemment, c'est une protection probablement dont, ouais. Elle a besoin. Et là, tout à coup, effectivement, il y a une faille parce que cette fille, malgré tout, même si elle la critique beaucoup, malgré tout, elle a touché quelque chose en elle de très profond et de très sensible. Et moi, je trouve que c'est quand même dans une cohérence de l'œuvre de Marine Diaye. Oui. Si on pense à Trois femmes puissantes, si on pense aux serpents, les serpents aussi où il y a trois femmes, Honneur à notre élu. Enfin, il y a vraiment une cohérence. Et moi, j'ai hâte de lire son prochain roman.
Les autres pièces qu'elle a écrites et qui ont été jouées.
Absolument.
Je pense à Hilda et d'ailleurs qui ont toujours, enfin trois d'entre elles ont été mises en scène par Frédéric Bellier-Garcia. Arnaud.
Oui, je suis totalement d'accord avec vous. Je suis pas sûr que Jean-Michel Blanquer appréciera beaucoup cette vision de l'éducation nationale parce que il y a quelque chose justement qui n'a rien à voir avec le discours qu'on entend tout le temps de la transmission, voilà, du rôle du professeur. Il y a au contraire une violence permanente, mais qui est partagée, qui est à la fois la violence des élèves, mais la violence aussi de ce professeur qui finalement n'a pas du tout envie de s'excuser de quoi que ce soit auprès des parents de cette Daniela qui s'est donc jeté par la fenêtre. Et on sent la classe comme l'endroit du... Encore une fois, tu as raison, Frédéric, quand tu parlais des élèves qui veulent dépecer le professeur...
C'est grand fauve que la faim a conduit dans la classe, cette phrase.
Exactement, c'est l'endroit d'une très grande violence qui tourne sans cesse, finalement. Hein, des élèves contre le professeur, des élèves contre... une autre élève. Et donc, cette vision-là, elle n'est jamais dite, je crois, du rôle de ce qu'est aussi l'éducation aujourd'hui. Et donc, rien que pour ça, je trouve que ce texte est extrêmement fort.
Royan, la professeure de français, petit texte, grande violence, si j'ose dire, de Marine Diaye. C'est publié chez Gallimard et on parlera début janvier de son nouveau roman, La Vengeance m'appartient, en espérant que tout sera possible. La pièce, le monologue, devrait être joué par Nicole Garcia en janvier à Marseille, Toulon, Compiègne, La Rochelle, Vannes, en février à Châlons-en-Champagne, Sète, Chartres, et en mars à Romans-sur-Isère, Nevers et Nice. Voilà, le temps est venu des conseils. Et on va commencer avec Olivia.
Je voudrais vous conseiller un conte de Noël qui s'appelle « Ce genre de petites choses » qui est écrit par l'Irlandaise Claire Keegan, publié chez Sabine Vespizer. Et si vous avez aimé « La vie est belle » de Capra, et je ne vois pas comment on peut ne pas aimer ce film, vous allez adorer ce livre qui se passe en Irlande, dans un petit village en 1985. Un marchand de bois et de charbon va livrer sa cargaison dans un couvent qui doit être il n'est pas nommé, mais ce qu'on appelait les couvents de Magdalena, ces lieux où des filles de moralité très douteuse, comme on disait alors, étaient enceintes sans mari et allaient accoucher. Et là, il y a une des jeunes filles qui lui demande de l'aide. Et vous avez cet homme qui est respectable, respecté, avec sa vie bien rangée, qui tout d'un coup se demande s'il doit aider cette jeune fille. C'est d'une beauté, mais vraiment, vous allez adorer.
C'est chez
Sabine Vespizer.
Vespizer, Le Conseil d'Arnaud.
Alors c'est un premier roman qui s'appelle La Voix du Moloch de Sandrine Malika Charlemagne, j'adore ce nom, publié chez un éditeur que je ne connaissais pas, qui porte aussi un nom que j'aime beaucoup, c'est les éditions Velvet. Alors je vais vous dire très sincèrement, ce qui m'a attiré vers ce livre, c'est qu'il est préfacé par quelqu'un que j'admire énormément, qui est René Tsekati, donc le grand spécialiste de Pasolini. Et quand je dis une préface, c'est pas des petits compliments fleuris, non, c'est une véritable étude d'une dizaine de pages sur ce premier roman. Ça fait penser au geste de Sartre qui avait préfacé Nathalie Sarraute, Portrait d'un inconnu. Vraiment, il décortique ce texte de Sandrine Malika Charlemagne, il parle de l'usage du discours indirect libre, dont Pasolini justement disait qu'il était au cœur de la poésie. Alors qu'est-ce que ça raconte, La Voix du Moloch ? Eh bien, ça se passe dans ma circo, dans le 18e arrondissement.
Ah, encore.
Mais avec.
Où tu n'es plus candidat. Hein,
non, je ne suis plus candidat. Mais avec mais du côté des gens de peu, de ceux qui vivent du RSA, qui n'ont pas de moyens. Et c'est l'histoire d'un rapport entre une fille et sa mère. Et cette fille déteste sa mère au point de vouloir la tuer. C'est vraiment très fort. René Tsekati compare Sandrine Malika Charlemagne à Violette Le Duc. Moi, j'ai pensé en fait à une sorte de Welbeck féminin. Et franchement, voilà, c'est un premier roman qui sort de nulle part et qui
et donc
est
aux éditions Velvet.
Aux éditions Velvet.
Mon conseil, c'est un récit de l'historien, prof de à la New York University, Stéphane Gerson, qui s'appelle Disaster Falls, c'est chez Alma, alors qu'il faisait une descente en kayak de la rivière Green dans l'Utah, avec sa femme et leurs deux fils, le plus jeune, Owen, 8 ans, donc s'est noyé. Et là, Gerson devient l'historien de son propre désastre, c'est assez incroyable. Il raconte aussi l'histoire de son aïeul juif, parti de Minsk en Biélorussie, au début du XXe siècle pour débarquer à Ellis Island. Il décrit les attentats du 11 septembre dont il a été le témoin et qui auraient traumatisé le petit Owen. Et puis il dit adieu à son père, euthanasié dans un hôpital de Bruxelles, exactement quelques temps après la mort de son fils. Livre qui est très fort, je trouve, très en même temps très pudique, et qui s'appelle « Disaster Falls » et c'est chez Alma. Le conseil de Frédéric.
Ben, c'est une bonne surprise, le premier roman d'Alex Lutz. Alex Lutz, qui a eu le César du meilleur acteur l'année dernière pour son film Guy, qui était déjà, je trouve, assez génial.
Ah, génial.
Alex Lutz, qui a joué Catherine dans Catherine et Liliane pendant 7 ans. Quand même, qui est un acteur assez transformiste et étonnant.
Et qui est en plus un très bon cavalier, ce qui ne gâche rien.
Voilà, et qui a fait aussi des seuls en scène.
Un cavalier, comment ça, qui monte à cheval ou qui danse?
Oui. Un cavalier.
Et qui fait le cheval extraordinairement.
L'équitation.
Son cheval, étant
dans le film Guy et aussi dans son spectacle.
Sur la scène du théâtre. C'est un type étonnant. Et alors donc là, je me dis, j'espère que je vais aimer. Et puis en fait, oui, je trouve que le radiateur d'appoint, donc, c'est l'histoire d'un radiateur d'appoint qui est défectueux, qui est en vente dans une zone industrielle, et ce radiateur regarde tous les clients, tous les gens qui travaillent là, dans ce supermarché, dans cet hypermarché, et les descriptions sont excellentes, c'est très précis, c'est très juste, très fin, et je suis assez épaté par Alex Lutz, et je dirais que, ben évidemment, c'est un roman qui réchauffe.
Fiat Lutz, le conseil de Patricia.
En cas de confinement, on a le droit de lire des livres qui sont parus il y a longtemps, donc c'est un premier roman, mais qui est paru il y a déjà un an. Et c'est Frédéric qui vient de me le faire remarquer. Et moi, comme j'ai un vrai bordel chez moi, j'ai pas
mais
vu.
Mais comme l'émission se termine, on va aller un peu rapidement.
Voilà,
pour le
c'est
signaler.
Victor Gestin, La Chaleur.
Ah oui.
Oui, voilà. Et je l'avais pas lu.
Oui, t'es en retard.
J'ai oublié de dire l'éditeur, c'est Flammarion aussi, les deux.
Voilà. Même si franchement, le bandeau est très moche. Mais le livre est très bien. C'est un livre d'atmosphère. Et c'est écrit par un tout jeune homme. Moi, j'ai beaucoup aimé.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, Olivia de Lamberterie, Patricia Martin, Frédéric Becbédé et Arnaud Vivian. Pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Et ce soir, au théâtre de l'Alliance française à la technique, il y avait, et je les remercie, Cédric Châtelu, ainsi que Philippe Thibault, pour une réalisation signée Xavier Pestugia. Dans une semaine, on parlera de cinéma à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.